alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to
celebrate you, baby. Quoi ? Je ne crois pas. Encore du yoga ? Mais alors, on va parler que de ça dans cette émission maintenant. Du yoga, il y en a partout.
On n'a jamais parlé de yoga dans cette émission.
Je sais ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
Du coup, j'ai invité Anaïs Risp à venir nous rendre visite et nous parler de son yoga, de son parcours. Il se trouve que c'est un très jeune professeur de yoga. Souvent, on s'imagine les professeurs de yoga après une longue expérience, des voyages au Tibet, etc., des années de méditation, je ne sais pas où.
En Inde, en général.
En Inde, par exemple. Et toi, tu as 28 ans.
Oui.
Mais tu es déjà professeur de yoga.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Alors, mon parcours. J'ai commencé il y a à peu près 4 ans. J'ai fait au biais de rencontres dans les Pyrénées d'une prof de yoga qui m'a initiée. Donc un petit stage de découverte dans lequel je me suis vraiment sentie trouver la discipline qui me parlait complètement. Voilà, ça a été une découverte et tout de suite ça m'a plu, tout de suite.
Et avant ça, tu avais déjà des
pas
des,
du tout. Non, j'étais sportive, j'aimais courir, faire du cheval, beaucoup de sports en plein air et j'étais un peu contre les sports en salle. Et du coup là, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas du coup de la gymnastique, mais vraiment quelque chose plus profond que ça, avec la respiration. Vraiment, je me retrouvais moi-même, en moi-même.
D'accord. Et tu avais eu des envies de faire d'autres métiers avant ? Tu pensais faire quoi dans la vie quand tu serais grande ?
Alors, je bossais avant de me mettre au yoga. J'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et donc, au biais de rencontres, justement dans les Pyrénées, dans le cadre de mon travail, J'ai découvert le yoga comme ça, sans m'y attendre du tout. En fait, ça m'est un peu tombé dessus.
C'est sympa quand ça fait ça.
Voilà. Et voilà, donc l'hôtellerie-restauration, un monde qui n'a rien à voir. Mais ouais. Justement, le yoga m'a amené à peut-être à m'éloigner un petit peu de ça pour en faire mon métier aujourd'hui. Voilà.
Et comment ça s'est passé après ? Tu as été formée
donc, suite à la rencontre, à la première rencontre, j'ai commencé à faire des petits stages. Donc, c'était assez ponctuel puisque mon métier d'hôtellerie ne permettait pas vraiment d'avoir de la régularité avec les horaires un peu en dents de scie.
Ouais.
Voilà. Du coup, j'ai fait des petits stages d'immersion complète pendant 3 jours, 2 jours, 4 jours, ça dépendait, avec des grands maîtres. Mmh. Et du coup, de plus en plus, je suis allée dans la profondeur de l'enseignement du yoga. Et sans forcément comprendre tous les tenants aboutissants, je me suis dit, ben pourquoi pas, il y a vraiment des choses qui t'appellent. Quand j'arrêtais d'en faire, j'avais envie de pratiquer. Et du coup, je me suis munie de mon petit tapis à la maison et j'ai commencé à faire ce que j'ai pu.
Toute seule à la maison ?
Ouais, toute seule à la maison.
T'as tous les jours
Alors, pas tous les jours, mais peut-être, dès que j'avais un petit moment de libre dans la semaine, je m'accordais une petite heure à essayer de reproduire les figures que j'avais pu apprendre de mémoire. Mmh. Et puis ça m'a vraiment poussée à toujours me perfectionner, à aller chercher un peu plus, à faire d'autres stages. Et puis j'ai eu une opportunité de faire la formation.
Et une formation de professeur.
De professeur de yoga, ouais. Sans pour autant vouloir être prof de yoga à la base. Je m'étais dit, ce sera vraiment pour l'approfondissement de la pratique, pour mieux te connaître aussi. Mmh. Et voilà, mais j'enseigne quand même aujourd'hui.
Et pourquoi, pareil que c'est, pardon.
Parlons, pourquoi c'est comme au judo, il y a des couleurs de ceinture, au fur et à mesure qu'on a fait des stages, on a une progression, une reconnaissance ?
Pas spécialement, en fait. C'est, on va dire que la formation de professeur de yoga, c'est quand même une base pour pouvoir enseigner, puisqu'il y a un aspect pédagogique. Il y a quand même des éléments méthodiques d'enseignement qu'on ne peut pas inventer, je pense. Pour en revenir à la question, c'est... Il n'y a pas de niveau spécifique, on va enseigner ce qu'on sait faire avant tout. Donc je ne vais pas m'amuser à enseigner des choses que je ne maîtrise pas. Ça, c'est,
oui, mais si quelqu'un dit « je fais du yoga » et que vous lui répondez « moi je l'enseigne », hop, 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 non ?
Je pense que quand on est enseignant de yoga, on est avant tout aspirant yogi. Où on est donc on est au même niveau que tous les aspirants yogis. On n'a pas de... Il n'y a pas d'histoire d'être un maître. Oui, il y a des maîtres, parce qu'eux, ils ont des années... des décennies d'expérience, de pratique et d'enseignement. Là,
et,
oui,
et ils ne se la pètent pas, c'est ça qui est dingue.
Voilà.
Alors, j'ai une réponse qui vient d'une autre discipline à ça. Je connaissais un professeur, un maître de Tai Chi, pour le coup, mm-hmm. chinois, qui me disait, mais les grands maîtres, il n'y a qu'en France qu'on a des grands maîtres. En Chine, un maître, c'est simplement quelqu'un qui a la maîtrise de son art. Et pour lui, quand même, il y avait une différence entre le maître et l'enseignant, c'est que le maître, il apportait quelque chose en plus, l'enseignant se contentait de transmettre ce qui lui avait été appris. Voilà.
C'est exactement ça, c'est une histoire de transmission avant tout. Mmh. On est là pour un petit peu ouvrir des portes, permettre aux élèves de rencontrer des choses nouvelles et de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir mieux se connaître, d'avancer dans leur propre pratique. Et nous, on est simplement des messagers. On n'a pas de... Il n'y a aucun négo à avoir vis-à-vis d'enseigner, même si tout ce qu'on peut voir dans les magazines, les jolies photos de filles avec des postures incroyables, oui, ça, c'est sûr, on en voit partout maintenant. C'est super à la mode. Mais...
On peut trouver de l'ego partout, il n'y a pas de souci.
mais honnêtement, avant d'arriver à faire ça, il faut des années de pratique ou avoir déjà une certaine souplesse. Mais quand le yoga, ça s'adresse à tout le monde, donc pas forcément aux gens souples.
Oui, c'est ça, on peut être coincé et faire du yoga quand même.
Tout à fait.
Il n'y a pas de ceinture noire de yoga, je te signale, ni de troisième dan, ni tout ça. Hein. C'est pas très compétitif comme
mais
elle
avait
discipline.
Répondu à la question.
Pas de compétition, non. Ouais.
Alors, la question que je me posais, c'est comme elle disait, j'ai voulu aller jusqu'à, sans avoir la volonté de l'enseigner forcément, mais voir comment on peut dire, ça y est, je suis reconnu comme formateur, quelque part.
Oui, on a quand même des diplômes. On est quand même tenu à l'école qui m'a formée. Donc c'est une professeure américaine et ils délivrent pas n'importe quel certificat. C'est quand même reconnu. J'ai un diplôme daté.
Et il y a une formation continue.
Je pense
faut
que
se tenir au courant des dernières découvertes.
Voilà, c'est personnel en fait. C'est l'avancement, le cheminement personnel. Si on veut être un enseignant et sur notre propre pratique personnelle, continuer à évoluer, à se poser des questions, à aller de l'avant, ben automatiquement, on a envie de connaître ce qui se fait, de s'améliorer. Enfin, en tout cas, avec ma perception des choses, c'est le cas.
Anaïs, tu poses lui des questions, Laure, et puis quand à la fin, il y aura des questions que tu n'auras pas posées, c'est moi qui le ferai.
Je te remercie. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce parcours que tu viens de raconter ? Est-ce que tu as senti, parce que tu m'as dit que tu étais très sportive ? Mais le rapport au corps dans le yoga est très différent.
Voilà, le rapport est différent dans le sens où il n'y a pas de compétition. Mmh. On a...
Même si tu es allée au bout de...
Oui, et je pense que c'est une quête qui ne se terminera jamais. On ne va jamais au bout. Je pense qu'il faut toute une vie. Donc,
qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement quand tu as découvert cette discipline?
Une meilleure écoute de moi-même. Mmh. Vraiment une ouverture d'esprit aussi. Il y a plein de choses qui changent, puisque donc c'est pas simplement le fait d'avoir des postures. On connaît beaucoup le yoga par les asanas, les postures. Mm-hmm. Mais avant tout cela, il y a tout un cheminement aussi de comportement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même, qui fait qu'on va pouvoir mieux évoluer aussi dans les postures. Ensuite, qu'on va évoluer aussi dans la respiration. Pour évoluer sur une tranquillité de l'esprit, quelque chose qui soit vraiment au-delà de l'aspect physique.
D'accord. Et pour quelles raisons les gens viennent faire du yoga ?
Alors j'en ai beaucoup qui viennent pour l'aspect physique, dans un premier temps, mm-hmm. et ce que je conçois tout à fait, puisque moi j'ai commencé le yoga par ça.
Pour ces raisons-là, oui.
Voilà, en me disant j'ai besoin d'une activité physique, de bouger, et donc le yoga que j'enseigne, qui est du Vinyasa Ashtanga, est un yoga dynamique.
Je savais que...
Je vais trop loin.
Il tient pas.
Non, mais je note Vinyasa, comment ?
Vinyasa Ashtanga, Vinyasa.
D'accord, on y reviendra. Hein.
Oui. Tu poseras la question tout à l'heure. Oui, donc tu disais.
Donc voilà, le Vinyasa Ashtanga, donc, c'est un yoga qui est dynamique. Mm-hmm. Et du coup, la plupart des personnes qui sont intéressées par ce yoga, c'est des personnes qui ont déjà des activités un peu dynamiques, qui aiment ce côté dynamique de la vie en général. qui ont du mal à rester sur une pratique de yoga posée, allongée sur le tapis et, ou être dans l'état de méditation tout de suite.
C'est vrai que les personnes qui n'aiment pas le yoga, qui ont peut-être essayé une fois ou ont des a priori, disent en général oh, « non, c'est trop lent pour moi, pas bouger, 5 minutes, c'est pas possible ».
C'est exactement ça. Mm-hmm. La plupart me disent ça, c'est qu'ils ont eu des échecs dans leur précédente expérience en yoga.
Parce qu'il faut dire que c'est difficile de se mettre dans une posture et d'être simplement là.
Tout à fait.
C'est compliqué pour beaucoup de gens.
Pour beaucoup, oui, c'est compliqué parce qu'on a vraiment tout ce tumulte d'idées, de pensées qui sont là dans notre esprit. Et souvent, on a du mal à lâcher, on a du mal à juste rester là sur sa respiration tranquille. Alors qu'il s'agit simplement, dans l'activité dynamique du yoga que j'enseigne, finalement, c'est de se déconnecter du mental pour se recentrer sur la pratique dynamique avec la respiration. Et petit à petit, on oublie cette activité mentale intempestive qui vient là.
Du coup, le fait que ça soit un petit peu plus en mouvement, si je comprends bien, ça aide à zapper le mental.
C'est ça, tout à fait.
Un peu plus facilement.
C'est le mouvement et la concentration sur le souffle qui vont aider à mieux lâcher prise.
D'accord. Du coup, comment ça se présente ? Ce sont des enchaînements, un peu comme dans les arts internes chinois, japonais, etc.
Pour schématiser un peu un cours, donc on va commencer surtout par une introduction sur la respiration. D'abord, la respiration Ujjayi, pour les mots un peu techniques, c'est un...
Ah bien, si vous voyez la grimace de Joël, il en peut plus.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'attends qu'elle arrive au pranayama, moi.
Non, non, voilà.
C'est un pranayama. La respiration Ujjayi est un pranayama, sauf qu'on va utiliser ce pranayama pendant toute la pratique. Et c'est simplement sentir la respiration, donc ça ressemble un peu au souffle de Dark Vador, profond, un petit peu rock.
Dark Vador.
Qu'est-ce que c'est
Dark Vador qui fait du pranayama, je pense que c'est... voilà.
Oui.
Johan Pericas, qu'est-ce que c'est que le pranayama ?
Elle est en train d'expliquer,
mais
vous l'avez interrompu.
Mais non, c'est toi qui as introduit ce vocabulaire étrange dans ta bouche.
Elle est en train d'expliquer, vous l'avez interrompu, et moi, derrière, j'ai une question, elle ne s'en remettra pas. Alors.
Donc, la respiration Ujjayi, donc pour le terme qui est en sanskrit, en indien ancien, c'est une respiration qui signifie le souffle victorieux. Ou bien le souffle...
D'où Dark Vador.
Voilà. Ou bien le souffle de l'océan. Et quand on entend effectivement ce souffle, on peut comprendre que on se laisse vraiment, le mental se laisse bercer par cette respiration. Mm. Parce qu'on est vraiment dans une... Je peux peut-être le...
Oui, dans les asanas, on est. Oui, oui.
Mais je peux peut-être le faire. Je ne sais pas si ça va s'entendre au micro. Ouais,
à la radio, du yoga, en direct. Allez.
Voilà, donc c'est une respiration vraiment profonde qui se fait uniquement par le nez et qui vient du coup remplir complètement notre capacité respiratoire, ouvrir notre cage thoracique. Donc déjà, on améliore aussi notre propre souffle rien qu'en expirant et inspirant de cette manière, même dans la vie de tous les jours.
C'est pour ça qu'on se sent mieux au bord de la mer quand on inspire et on expire au rythme des vagues.
Voilà.
Je viens de comprendre mon truc.
C'est bien.
Est-ce que vous utilisez la respiration ventrale ou pas du tout ?
Alors, il y a une respiration complète de la cage thoracique, de l'abdomen. Donc, on va bien sûr venir chercher cet air entre le nombril et le sternum. Donc, on va utiliser le bas de la cage thoracique. On va essayer vraiment de pousser le diaphragme vraiment pour remplir et vider complètement les poumons. Donc, on va vraiment activer... toute la zone abdominale, les côtes, tous les muscles vont venir s'exprimer dans cette respiration, d'où aussi les effets de chaleur interne par le souffle. Et ça va permettre plein de bénéfices, comme éliminer les toxines sur le dioxyde de carbone à l'expire, et bien inspirer, donc amener tout l'oxygène nécessaire aux muscles.
Il faut dire que le diaphragme, quand même, est en général très coincé quand on est stressé. Et quand on a une belle respiration, que le diaphragme fonctionne correctement, ça fait un massage des organes, ça amène plein de bienfaits pour la santé.
Voilà, de bienfaits pour la santé, rien que pour la digestion par exemple, puisqu'on va pousser les organes digestifs, le diaphragme va faire un mouvement dans le ventre. Mm-hmm. Donc voilà, rien que cet effet-là aussi.
C'est comme le rire.
Oui.
Ben, le yoga du rire, ça existe. Hein. On en parlera un de ces jours, tiens.
Oui, si on arrive à l'attraper.
C'est ça.
Donc... Bon, pour l'instant, on a le yoga. On essaiera notre appel rire.
Bon, le yoga dynamique.
Normalement, quand on arrive à un quart d'heure d'émission...
Allons-y.
Hein, on se dit que les questions sont vachement intéressantes, mais on va les poser après.
D'accord, ça marche.
Exotique dans l'alternative, l'émission de Laure Rose qui va nous dire ce que c'était.
Alors, c'était Footprints, c'est-à-dire les traces de pas, n'est-ce pas, de Jai Utal.
Ah oui, bon. Mais c'était dans
l'esprit.
C'était
hyper exotique.
C'était dans l'esprit.
Il y a des gens pour qui c'est pas exotique.
C'était dans l'esprit de la professeure de yoga que nous recevons aujourd'hui, qui est Anaïs Risp.
Mais comme toujours, j'essaye d'assortir un petit peu les choses, faire les choses un peu cohérentes.
On va voir si ça tient jusqu'à la fin.
Donc, on a parlé des bienfaits de la respiration, dont j'ai oublié le nom déjà, la respiration.
La respiration Ujjayi.
D'accord. Et alors, la suite de la séance, alors, ensuite.
La suite de la séance, on va en ayant d'abord pris connaissance de chacun des éventuelles blessures anciennes, récentes, puisque bon, c'est quand même important, on va solliciter le corps de ne pas aggraver ces blessures. On va faire un échauffement autour de la colonne vertébrale, puisque l'axe majeur dans le travail du yoga, c'est la posture, d'arriver à la posture assise. Donc, la colonne vertébrale qui n'est pas souple, qui est un petit peu raide, ça va être difficile de tenir la posture assise. Donc, on va faire un petit échauffement là-dessus, autour. Et puis, on va enchaîner des postures, notamment en commençant par les salutations au soleil. Mmh. Donc, les salutations au soleil, elles permettent de dynamiser le corps, de chauffer, de continuer toujours avec ce souffle.
Alors, c'est un enchaînement de postures.
Voilà, là, c'est un enchaînement dynamique. Donc, chaque mouvement est associé à une respiration. Donc, en général, sur l'inspiration, mouvement vers le haut, et expiration, mouvement vers le bas. Et puis, donc, on va solliciter le corps sur différentes postures. D'abord, des postures debout. On a les postures des triangles, de l'arbre, pour les plus connus. On a les postures
pour
de la pince.
Pour l'équilibre.
Voilà. Pour l'équilibre, hein, tout à fait. Surtout sur les postures debout, c'est vraiment sur l'équilibre. On va vraiment travailler sur l'ancrage au sol avec les pieds. Mmh. Et puis toujours l'extension de la colonne vertébrale dans ces postures.
Mmh. Quoi, les occidentaux n'ont pas la colonne vertébrale souple ?
C'est les occidentaux, l'être humain en général, quand on voit l'évolution...
Mais depuis qu'on s'est levé...
Et comme on dit, on dit souvent, on entend, oui, le mal du dos, c'est le mal du siècle, mais bien sûr, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on ne se muscle plus le dos dans le bon sens.
Et qu'on en a plein le dos régulièrement.
Ouais. Voilà, aussi. Voilà, donc vraiment, je pense que... Je sais plus ce que je voulais dire.
mal de dos, est-ce que la colonne vertébrale, c'est spécifique à l'homme ?
La colonne vertébrale, c'est notre pilier. Dès qu'on a mal au dos, on est pas bien, on n'est plus nous-mêmes presque. Je pense que tout le monde a pu expérimenter ça.
Et puis le système nerveux central passe par là, et du coup après ça atteint tous les organes, donc c'est super intéressant.
Non, mais en même temps, on ne nous apprend plus à, comme les petits rats de l'opéra, à se tenir bien les épaules dégagées.
Non,
bien
mais
droites,
les petits rats, c'est pas ça. Tu sais qu'elles
sur les sont, pointes.
Ça les abîme un peu quand même. Hein. La danse classique, c'est pas très très bon pour
après,
le corps.
Après, c'est comme tout, dès qu'on est dans l'excès, c'est pas bon pour le corps.
Voilà, c'est ça.
Oui, parce que les dockers aussi, ils tiennent le dos droit, mais pour le moment, non.
Non, mais il y a beaucoup de sports qui poussent leur... surtout quand c'est au niveau compétitif.
Oui, c'est la compétition qui pousse à aller au-delà des limites, bien sûr.
Est-ce que tu respectes le... Est-ce que tu dis à tes élèves qu'il faut respecter son seuil de souffrance et arrêter de ne pas aller trop loin, la voisine, etc.
Est-ce qu'on peut se faire mal au yoga ?
Bien évidemment, on peut se faire mal, on peut se blesser si on est dans vouloir trop bien faire, vouloir trop faire, aller trop loin, trop vite.
Ou mieux que l'autre.
Et du coup, ne pas être sincère avec soi-même, ne pas respecter ses propres faiblesses, on va dire.
Ses limites, tout simplement.
Ses propres limites, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, c'est dans les enseignements du yoga, avant la partie posturale des asanas, on a les niyamas, yama et niyama, qui sont des enseignements ou des codes un peu moraux. Qui nous permettent tout d'abord d'être sincères avec nous-mêmes. Vous connaissez sans doute Ahimsa, la non-violence. C'est le premier code moral qu'on nous enseigne avec l'Ashtanga Yoga.
Et la non-violence envers soi-même, bien
et
entendu.
Et la non-violence envers soi-même.
Alors, ça c'était pour les enchaînements, donc la salutation au soleil, qu'il est d'ailleurs très agréable de faire tous les matins en se levant.
Même quand ça tire, même si on n'a pas envie, c'est super bénéfique de le faire le matin. Mais je vous avouerai qu'on peut avoir des jours où on n'a pas envie de le faire.
Avant le déjeuner ou après ?
Alors, c'est mieux de le faire avant. C'est
faire
mieux.
Du yoga le ventre plein.
La pratique est vraiment plus agréable, le ventre vide. Et puis, vraiment, puisqu'on va solliciter l'appareil digestif, qu'on va amener des torsions, il y a beaucoup de postures qui vont solliciter l'abdomen, et puis rien qu'avec la respiration, si on a le ventre plein, c'est pas du tout agréable.
Moi, j'ai essayé une seule fois de m'asseoir et de respirer, mon chien, il trouvait que je faisais un truc bizarre, il est venu me lécher les oreilles, le nez, et il n'est pas habitué. J'habitue mon chien.
C'est vrai que les animaux, ils aiment bien venir nous embêter. Quand je pratique chez moi, à la maison, sur mon tapis, il y a mon chat qui vient se balader, tout, il vient d'un côté de l'autre, en se disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ?»
C'est pareil au tai chi, les chats viennent se frotter contre les pieds des tai chistes.
Ouais,
si vous aussi, un chat est venu se frotter quand vous pratiquez quelque chose, racontez-nous-le.
Mon Dieu, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, on
pour
est tout
terminer
interrompu.
sur la pratique, parce que c'est quand même
sur
pas
la
terminé.
Séance, oui.
Sur la séance, on a la dernière partie, donc après l'enchaînement de postures, la relaxation, qui permet du coup de poser le corps, de pouvoir peut-être un petit peu assimiler tout ce qu'on a pu vivre pendant la pratique physique. Et donc la détente du corps, de l'esprit, sans pour autant s'endormir, on n'est pas là pour dormir, mais vraiment se relâcher complètement. Et ça, je sais que beaucoup, beaucoup d'élèves apprécient énormément cet espace. Ça dure peut-être des fois 5 minutes, 10 minutes, mais c'est très bénéfique, vraiment.
Les séances durent combien de temps?
Alors la séance, de manière générale, dure 1h15.
D'accord. Donc le dernier quart d'heure, on va dire, c'est
pour la relaxation, pour venir sur la détente.
Et si on s'endort, ça veut dire qu'on en avait vraiment besoin.
Exactement.
Très bien. Est-ce que on peut le pratiquer à tous les âges? Parce que j'ai été surprise, moi, de voir qu'il y avait des jeunes femmes et des jeunes hommes très... Par exemple, quand tu es très stressé au moment de passer le baccalauréat, etc., venir demander de suivre un cours de yoga.
Oui, tout à fait. Rien que dans le panel d'élèves que j'ai avec moi, j'ai tous les âges. Autant j'ai des plus jeunes, des adolescents, j'en ai pas trop eu, mais par exemple des adolescents qui accompagnent leur maman, qui viennent pratiquer.
D'accord.
Parce qu'elles connaissent un petit peu, elles ont entendu parler des bénéfices du yoga. Du coup, elles viennent de temps en temps, pas régulièrement, mais oui, elles vont venir faire une séance pour elles-mêmes parce que ça fait du bien. Elles le ressentent. En tout cas, les ados, ouais, sont ouvertes à ça.
Et les seniors, alors ?
Et les seniors aussi, bien sûr. Là, du coup, du point de vue de leur capacité physique, je vais adapter des variations peut-être plus souples. Je vais indiquer ce qui est mieux en fonction de leur capacité, de ce qu'ils ont. Il y en a qui ont quand même des pathologies aussi articulaires, d'arthrose. Hein, donc, toujours dans la bienveillance, dans la non-violence. Voilà, faire des pratiques plus adaptées, des variations.
Mais est-ce que c'est possible de faire du yoga quand on a déjà des douleurs, qu'on a du mal, par exemple, avec des étirements, qu'on a toutes ces problèmes articulaires,
etc. La souplesse ou le manque de souplesse, parce que beaucoup, beaucoup de gens me disent « Ouais, je suis pas assez souple pour faire du yoga ». Au contraire, avec le souffle, avec la patience, on arrive à doucement laisser le corps se déployer, mais avec beaucoup de patience, bien sûr.
Mm-hmm. Une quinzaine d'années, c'est bon.
Oui, ou des fois toute une vie.
C'est un minimum. Pourquoi aller chercher, c'est une question qu'on peut se poser quand même, pourquoi aller chercher une pratique indienne?
Alors, les origines du yoga.
Pourquoi pas tibétaine? Ou
tibétaine, enfin une pratique asiatique.
En tout cas, c'est une pratique qui vient de l'Orient. Effectivement, le berceau du yoga, c'est l'Inde. Pourquoi le yoga? Pourquoi l'Inde? Simplement, la pratique en elle-même n'a pas besoin d'être mise à la française. Puisque toutes les gymnastiques sont issues de la pratique du yoga. On va retrouver plein de postures... d'enchaînements gymniques qui sont vraiment issus du yoga.
Dans la gymnastique suédoise et tout.
Après, je ne suis pas experte en gym suédoise,
moi non plus.
Donc je ne sais pas. Mais effectivement, l'Inde a porté cette sagesse qui date de millénaires. Donc on a les premières origines du yoga qui remontent à peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ, par les Yoga Sutras. Et on a... Je ne sais pas, c'est un enseignement qui est déjà tellement complet en lui-même.
Mais qu'est-ce que ça apporte de plus à ce qu'on aurait pu faire, nous, en Occident, par exemple? Quels sont les éléments qu'on n'a pas trouvé tout seul, nous?
C'est une discipline donc, qui englobe corps et esprit, puisqu'on va, par l'activité physique, agir sur le mental. L'apaisement du mental, c'est la première chose que j'avais abordée tout au début de l'émission. Trouver ce calme en nous-mêmes pour revenir à notre nature, revenir à notre intérieur, à qui on est au fond de nous. Au-delà de tout le tumulte de questions, de notre éducation, de notre culture, de tout cela, c'est revenir à soi-même.
Mmh. Alors moi j'ai une question, mais on va prendre 4 minutes pour qu'elle réfléchisse à la réponse. Est-ce que Jésus a pu pratiquer le yoga peut-être?
Peut-être.
Thank you.
mama. Wrong, 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 wrong. Come again, come again, come again.
Thank you. CFM.
Et sur CFM, on est dans l'émission Alternative, c'est la dernière demi-heure. Aujourd'hui, c'est Anaïs Risp, professeure de yoga, que Laure reçoit.
Et c'est moi qui désannonce toutes les musiques, vu qu'elles deviennent absolument imprononçables.
Surtout quand c'est toi qui écris.
Ouais. Donc ça, c'était extrait de Brooklyn Funk Essentials, In the Buzz Bag, n'est-ce pas? Et ça s'appelle Istanbul Twilight.
Ah oui, c'était funk, t'as raison. Tu vois, bon alors Jésus.
Donc alors Jésus, est-ce que oui, on peut se poser la question si effectivement est-ce qu'il y a eu des mélanges entre la chrétienté, le yoga, la Chine, etc. Qui expliquerait un petit peu le côté universel de ces pratiques-là.
C'est très intéressant. Je pense qu'il y a certainement des historiens qui ont déjà dû pas mal rechercher là-dessus.
Et c'est peut-être la question la plus intéressante de l'émission jusqu'ici, disons-le, carrément.
J'enlèverai tout le reste au montage. Allez, on commence l'émission.
Mais effectivement, l'aspect universel des enseignements du yoga, il n'y a pas d'affiliation à une religion. C'est vraiment le yoga en lui-même s'adresse à celui qui veut voir quelque chose pour aller sur le côté spirituel du yoga. Chacun, on est autant de personnes sur Terre, on a autant de perceptions de la spiritualité, je pense. Donc chacun y trouve ce qui lui parle. Moi, j'enseigne pas la spiritualité en tant que telle. J'enseigne le yoga, je donne les clés, je donne des guides pour aller au-delà de soi-même, pour aller tout simplement être là, présent à l'instant. Et simplement vivre peut-être un peu plus heureux, un peu plus dans le bonheur aussi.
Et donc, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que bien loin des religions, la spiritualité commence par l'écoute de soi.
Je pense que oui. J'ai pas de réponse. Comme j'expliquais, chacun voit la spiritualité du point de vue où il en est, lui-même, à son stade.
Mais ça, du coup, il n'y a rien de dogmatique dans cette approche-là, c'est ce que je veux dire.
Voilà, exactement. Aucun dogme.
D'accord. Est-ce qu'il est possible, j'imagine que les gens viennent te voir parce qu'ils ont des problèmes de stress ou X raisons, est-ce qu'il est possible d'arriver dans un cours de yoga pour chercher quelque chose de particulier et découvrir une autre facette du yoga?
Oui.
J'imagine que c'est pas une vraie question, en fait.
Bien sûr, puisque dans le parcours que j'ai pu vivre moi-même, dans cette expérience dans le yoga, j'y suis allée d'abord pour, sur le plan, l'aspect physique, trouver du renforcement au niveau du dos. J'avais un dos complètement...
En compote.
En compote vis-à-vis du travail d'hôtellerie qui, des fois, sollicitait vachement. Et finalement, j'ai trouvé des enseignements, des valeurs, des choses que j'avais un peu perdues. Je me suis retrouvée un petit peu moi-même. Du moins, cet ancrage dans le présent, cette sensation de la respiration, de liberté aussi à l'intérieur de soi, d'espace. Plein de choses qui nous parlent. Mais du coup, c'est des expériences vraiment personnelles. Et ça, j'insiste un peu sur ce fait-là, puisque... On ne trouvera pas la même chose. Chaque personne va trouver ce qui lui parle au moment présent.
On peut avoir l'impression que c'est quelque chose de très centré sur soi. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est centré sur soi, qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres?
Une fois qu'on est centré sur soi, on est plus à l'écoute d'abord de soi-même. C'est ça le rapport qui change. C'est que des fois, on fait les choses... On veut donner beaucoup aux autres, mais...
Puis ils n'ont souvent rien demandé, d'ailleurs.
Voilà, on veut aussi donner beaucoup de soi-même à l'extérieur, sans forcément se respecter. Du coup, on ne donne peut-être pas le meilleur de nous-mêmes.
Et là, on ne respecte nous donne... pas forcément l'autre, en plus.
Voilà, et puis donc, ça nous donne aussi ce recul, cette distance, de pouvoir s'observer, et du coup, de répondre au plus juste, à ce qui nous entoure.
D'accord.
Peut-être.
Alors, j'ai parcouru ton site internet qui s'appelle mysticanaïsyoga.net. Mais si vous tapez Anaïs Risp sur internet, vous y arriverez sans problème. Tu proposes beaucoup de choses, en fait, des cours privés, des cours collectifs. Tu interviens en entreprise aussi. Et alors, il y a quelque chose sur lequel j'avais vraiment envie de t'interroger. Tu collabores avec le Centre équestre de Caussade.
Oui. Donc mes premiers amours, c'est l'équitation, les chevaux. Mmh. Je suis passionnée depuis toute petite hein, et c'est une discipline qui m'a beaucoup aidée sur le plan sentimental, sur le développement personnel, le développement de soi, à avancer dans la vie. Et du coup, j'avais envie de m'y remettre un petit peu parce que je pensais qu'il y avait peut-être des liens avec le cheval, l'animal. Mmh. Puisque souvent, quand on monte à cheval, on est un petit peu aussi crispé. Si on ne pense pas à respirer, si on ne pense pas à être un petit peu en soi-même, on n'est plus présent, on n'est plus vraiment à l'écoute du cheval. Puisque quand même, il faut rappeler que l'équitation, c'est quand même une communication entre l'animal et son cavalier. Mmh. Donc voilà, j'ai contacté par hasard Didier au centre équestre de Caussade.
Il y a qu'un seul centre équestre à Caussade ou là...
J'avais fait plusieurs centres équestres, j'avais fait un petit peu le tour, puisque donc, moi je vis sur la région caussadaise. Et ce qu'il enseigne, lui, m'a tout de suite parlé, puisqu'il est dans l'équitation éthologique, donc dans l'étude du comportement de l'animal. Pour pouvoir mieux déceler ses réactions vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement, et de pouvoir mieux le comprendre. Et puis du coup, dans l'équitation qu'il enseigne, donc c'est de l'école de la légèreté. Donc c'est du dressage qui est vraiment dans le respect de l'animal. On n'est plus dans le dressage avec des harnachements horribles, des morts, 36 morts dans la bouche... des éperons, on est vraiment dans une équitation légère.
Les cravaches et tout, oui.
Voilà, on garde le contact avec la cravache qui est simplement le prolongement de notre jambe. Mais là, on est sur une équitation légère, avec du respect.
Il y a des gens qui montent, par exemple, les chevaux, qui les guident à la voix plutôt que de tirer sur la bouche, etc. Et dont les chevaux sont parfois pieds nus, d'ailleurs.
Mm-hmm. Est-ce que les chevaux sont pieds nus ?
Oui, c'est-à-dire pas ferrés.
Ah, pas ferré.
Ce qui n'est pas possible sur le cos, par exemple, parce que c'est trop caillouteux, mais parfois c'est possible d'avoir des chevaux pieds nus.
Tout à fait.
C'est cette voie, c'est ce genre de voie-là ?
C'est ce genre de voie-là, exactement. Tout, d'ailleurs, les chevaux chez Didier vivent en troupeau.
Et, alors, chacun, Didier, s'il nous écoute, c'est Didier Touron.
Didier Touron.
On le salue.
Vu que donc, les chevaux vivent en groupe, puisque l'animal dans l'état sauvage est un animal grégaire, donc vit en groupe. Mmh. Donc il a cassé au fur et à mesure les clôtures pour laisser tous les chevaux ensemble. Et il y a une entente qui se crée, il y a une hiérarchie qui se crée.
Il n'y a pas de bagarre ?
Il y a de la bagarre, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait, il y a toujours un dominant dans les chevaux.
Et les contestataires.
Il y a des rebelles, des soumis. Des...
et il y a les soumis qui sont à la fin, c'est une chaîne. Chacun fait partie de cette chaîne, chacun représente un maillon. Et voilà, donc c'est vraiment dans le sens de leur bien-être, puisqu'ils s'y retrouvent bien, ils ont beaucoup d'espace, ils partagent des choses ensemble, les chevaux.
Et ils ont toujours envie qu'il y ait des enfants qui viennent monter sur leur dos le mercredi après-midi ?
Alors, ils ont toujours envie, parce qu'on est toujours dans cette équitation de respect, c'est ce que...
Et ils savent qu'ils vont se balader, pour le coup.
C'est ce que... Oui, mais c'est aussi du travail, donc j'ai pas trop envie d'aller travailler, c'est sûr. Ouais. Ils le savent, bien sûr. Mais après, ils ont cette liberté de repartir auprès.
Dernière pause avant la vraie dernière ligne droite. Hein ?
Ça marche.
Thank you.
Segovia de Andrés Segovia. C'est ça, leur...
Je ne sais plus.
Ah ben voilà, c'est Segovia.
Non, alors, donc c'est un morceau qui s'appelle Segovia, qui a été composé par Roussel et qui est joué par...
Andrés Segovia.
Que tu prononces bien mieux que moi, pour le coup. Oui, bah, on est vachement complémentaires.
Il suffit de mettre l'accent tonique, hein, c'est pas compliqué l'espagnol.
Ouais, mais il y a des...
Bon, on est dans l'émission de Laurent Rose Alternative, il nous reste même pas un quart d'heure, avec Anaïs Risp, qui est prof de yoga et qui nous parlait quand même de l'éthologie... Comment on dit ?
Dans l'équitation, voilà.
Ouais, équine, hein ?
Équine, non, ouais,
c'est ça. Ou carton plein.
Bon. Oui, donc tu nous parlais du travail que fait Didier Touron à... Comment s'appelle ce centre équestre, Joanne ?
Mais c'est elle qui y va, moi, les chevaux, jamais je suis monté dessus. C'est l'autre.
C'est le centre équestre de Saint-Cernin.
Saint-Cernin, d'accord.
Au-dessus de Coussade.
Avec Didier Touron.
Voilà.
Oui.
Et donc, toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire ?
Bah ouais.
Alors, ce que je viens faire dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'équitation de Didier. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je donne des cours de yoga. Il me dit, waouh, le yoga, ça m'intéresse. Mm. Il a, dans sa formation, lui, pour enseigner l'école de la légèreté, il a rencontré une fille qui aussi était prof de yoga. Et qui faisait cette formation pour être instructrice de la légèreté. Et il m'a dit, ben moi, je voudrais bien m'y mettre. Si t'es d'accord, on fait un échange. Tu viens donner des cours. Et il a essayé. Il m'a dit, voilà, moi, vraiment, ça me parle. Je trouve qu'il y a vraiment du lien entre ce que j'enseigne et ce que tu enseignes. Donc, on a commencé à mettre ensemble...
Son royaume pour un cheval, voilà.
on a mis en place, du coup, des... d'abord un cours pour son staff, toute son équipe, dans le centre équestre. Et puis, une fois par mois, on organise des ateliers, des stages yoga et équitation, ou équitation et yoga. Par la discipline du yoga, on va amener le cavalier à se recentrer sur lui-même. Et puis, petit à petit, dans la partie montée à cheval, où on va essayer de retrouver un petit peu cette sensation, cette communication, se lâcher prise aussi.
Ils n'ont plus besoin d'étrier, ouais. Ils sont dans la position du lotus
sur la scène. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Vous voyez déjà des résultats ? Est-ce que...
Il faudra encore un petit peu de pratique, hein, encore un petit peu de temps pour peaufiner un peu les stages.
C'est intéressant.
Mais on pourra faire un petit point à la fin de l'année.
Ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez Zingaro, Bartabas. Et alors lui, il faisait appel à des profs de tai chi pour faire du tai chi à tout son cirque, là, tous ses cavaliers, et parce qu'il trouvait que c'est, pareil, ça aidait à accompagner le travail. Là, c'est plus un art.
Oui, parce que c'est plutôt presque un peu d'art du cirque. Ces cavaliers sont aussi acrobates.
On peut parler de cirque, oui, c'est ça. C'est la danse, c'est tout un spectacle.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Mais effectivement, pour revenir à ça, il y a beaucoup d'écoles de cirque qui font appel à des professeurs de yoga. Je pensais au Lido à Toulouse, qui fait appel à un professeur de yoga pour l'entraînement des circassiens.
Et dans la prochaine loi travail qu'il y aura après la révolution de ce printemps, le yoga sera obligatoire au travail.
Écoute, on peut toujours espérer. Hein.
Bartabas, c'est pas le frenier à dégonner. Bon.
Et alors, donc, vous organisez un stage yoga équitation qui s'appelle Equizen, qui sera... donne-moi les
donc,
détails.
Donc là, en fait, on va partir 3 jours en randonnée. Donc c'est à Albas... dans le Lot, 3 jours de randonnée en étoile. Donc ça veut dire qu'on va loger sur un centre en yourte. Et ensuite, il y aura donc des animations yoga, bien-être, et puis donc des randonnées chaque jour, une randonnée sur un point précis pour visiter les alentours. Donc là, c'est plutôt vraiment une sortie d'équitation et de bien-être.
Quelles sont les dates ?
Et puis peut-être ceux qui entendent ça, ils voudraient y aller.
Voilà, oui, c'est ça.
Comment ils vont faire ?
Sauf s'ils écoutent la rediffusion cet été, mais là, bon, il y aura d'autres stages mis en circulation.
Oui, ouais. Donc, c'est le week-end de Pâques, donc du samedi 26 au lundi 28. où donc on va se retrouver avec donc des personnes qui sont déjà montées à cheval, puisque donc il faut quand même pouvoir le groupe va être un petit peu restreint, limité en nombre de places, puisqu'on va transporter les chevaux là-bas sur le site, et ensuite on fera les balades tout autour au fur et à mesure des 3 jours, avec donc des activités de bien-être, le yoga. Il y a également donc un très beau lieu dans donc à Albas, avec les yourtes, avec une piscine, vraiment un lieu propice au bien-être, propice à la détente.
La piscine pour Pâques.
Piscine chauffée.
Ah
ben oui. Donc voilà, propice à la détente et au ressourcement. Voilà, c'était un petit peu le thème de cette randonnée assez spéciale.
D'accord. Est-ce que pendant qu'on est avec les dates, etc., est-ce que tu peux nous donner des précisions sur les cours que tu animes?
Bien sûr. Donc, j'anime des cours sur Caussade le lundi à 17h, un autre créneau à 18h45 et le mardi entre midi et 2. Et sur Montauban, donc les salles, donc différentes salles à Montauban. Le mercredi soir à 18h45 à rue Saint-Is. Et le jeudi, donc là, c'est au même lieu, au dojo d'arts martiaux de Progressive Wing Chun, rue Chamier.
Elle connaît tout par cœur, hein, t'as vu? C'est impressionnant.
Ouais. Avenue Chamier, et ça a lieu donc à 17h et à 18h30.
D'accord. Ou alors sans quoi, donc mysticanaïsyoga.net ou 06 07 14 82 57 pour plus de renseignements. Joanne, tu avais gardé des questions?
Oui, mais j'ai plus le temps.
T'as plus le temps?
Non, moi je voulais savoir ce que c'était le Tao des chevaux.
Ah, c'est intéressant. Mais le Tao, c'est bien plutôt de la philosophie chinoise. Donc moi, je ne suis pas trop calée sur ce domaine-là. Mais effectivement, il y a du lien avec le yoga, avec l'équitation, avec cette présence, ce retour vers soi, et d'utiliser l'animal comme miroir, puisque lui va nous envoyer, lui il est un petit peu comme un miroir.
Il réagit, il y a tout.
Voilà, il est complètement dans l'instant présent, il perçoit tout, et du coup toutes nos réactions, il va nous les renvoyer. Si lui va agir de telle manière, c'est que nous on a peut-être agi, on a fait telle chose qu'il a interprété comme ceci. Donc on va se servir du cheval comme guide, simplement.
On a des choses à couper. Vas-y, rajoute la minute pour remplacer mes conneries, vas-y.
Mais non, tu pourras les garder, je suis sûre qu'on trouvera d'autres trucs. On a assez de conneries à couper. J'avais une dernière question. Tu m'as parlé, quand on a préparé l'émission, d'un désir que tu as de fédérer les clubs de yoga ou les écoles de yoga dans le 82.
Oui, tout à fait. Je trouvais important de peut-être... nous retrouver tous en tant qu'enseignants de yoga, puisqu'on enseigne tous des disciplines qui ont l'air d'apparence différentes. L'Ashtanga Vinyasa, qui est un yoga dynamique. Il y a le Hatha Yoga, il y a le yoga tibétain, mais qui au final répondent à un même désir, une même question.
Qui sont des facettes complémentaires de la même chose.
Voilà, qui sont complémentaires, ou même qui finalement peuvent s'avérer être... aussi plus adapté pour certaines personnes. Et du coup, voilà, ce serait peut-être proposer à nos élèves des échanges qui se retrouvent peut-être plus à l'aise sur un cours. Voilà, je vois pas du coup l'aspect concurrentiel, mais plutôt de mieux orienter les aspirants yogis, les élèves, pour être plus à l'aise dans la discipline, pour vraiment être plus heureux.
Donc, parce que vous avez déjà observé des candidats où vous dites, bon, finalement, lui, il serait mieux dans le yoga de posture que
tout
le
à fait. Mouvement.
Ah, ouais.
Tout à fait. Il y a des physionomies, des personnes qui vont avoir besoin d'un yoga beaucoup plus dynamique, et d'autres qui vont avoir besoin d'un yoga plus tranquille, plus calme, comme le Hatha Yoga, où on va rester longtemps sur les postures.
Plus en profondeur.
Plus en profondeur, plus dans le souffle. Puisque déjà leur ossature, physiquement, leur état de santé ou psychiquement. Donc là, je fais un rapprochement avec l'Ayurveda, qui va de pair aussi avec
C'est pas, ce pas une émission, celle que le Ayurveda arrive dans les dernières
minutes. Non, t'exagères.
Voilà, donc qui met en lumière trois typologies de personnes. Et du coup, on se rend compte qu'on est tous différents, qu'on n'a pas la même...
La même dynamique, la même énergie.
On n'a pas la même perception, le même ressenti de ce que l'on vit. Si une personne... plutôt svelte, grande, mais qui va avoir du mal à être en souplesse, va faire une pratique dynamique, va peut-être être beaucoup plus perturbée qu'une personne qui est plutôt souple, plutôt d'une corpulence carrée, une bonne ossature, qui, elle, dans leur dynamique, au contraire, va s'y trouver bien, parce qu'il a besoin de bouger, il a besoin de faire circuler cette masse. Voilà.
Et il travaillera à la profondeur quand il sera grand, en fait.
Et il travaillera à la profondeur tout en même temps, puisque la profondeur, elle est quand même présente dans le yoga dynamique.
D'accord, très bien. Écoutez, donc si d'autres enseignants de yoga sont intéressés par la démarche d'Anaïs et sa volonté de fédérer, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir Anaïs et au mois prochain, si d'ailleurs Védon nous permet.
Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to celebrate you, baby.